C'est l'heure du journal d'Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un ouragan d'une intensité sans précédent atteint en ce moment l'île française Saint-Barthélemy et la franco-néerlandaise Saint-Martin qui viennent donc d'entrer dans l'œil du cyclone accompagné de vents atteignant près de 300 km/h. Précision dans un instant avec Marie-Pierre Véraud. En Conseil des ministres, ce matin, Nicolas Hulot présentait un projet de loi qui engage la fin de la production d'hydrocarbures en France. C'est un dossier suivi par Véronique Rebérotte. Après l'appel d'Emmanuel Macron aux propriétaires de logements de baisser leur loyer de 5 euros par mois pour compenser la baisse des APL, le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, précise la réforme du logement qui va être adoptée la semaine prochaine par le gouvernement. Précision d'Anne Lorchouin, commentaire politique de Frédéric Seyss. Le gouvernement britannique envisage de supprimer la libre circulation des travailleurs dès la sortie de l'Union européenne en 2019. Correspondance avec Antoine Gignot. Et puis la première ministre birmane, prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, sort ce matin de son silence à propos de la minorité Rohingya. Elle affirme que la compassion internationale à l'égard des musulmans Rohingyas est le résultat d'un énorme iceberg de désinformation. Explication en précision avec Eric Biegala. On évoquera enfin avec Guillaume Herner cette décision rendue publique ce matin par les entreprises Kering et LVMH d'adopter une charte commune pour interdire le recours à des mannequins trop maigres et âgés de moins de 16 ans. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jasper.
Le fait divers va faire sensation. Le fait divers, sujet médiatique depuis longtemps, mais aussi objet d'intérêt pour les sciences humaines. On en parlera avec le politiste Emmanuel Blanchard et l'historien Dominique Khalifa. L'un et l'autre, ensemble, ont dirigé une collection documentaire « Fait divers, l'histoire à la une », bientôt diffusée sur Arte. Ils seront avec moi à partir de 12h55.
C'est donc l'inquiétude aux Antilles françaises à l'approche de cet ouragan prénommé Irma, particulièrement sur les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui ont été donc placées en alerte maximale. Deux îles qui subissent en ce moment même de plein fouet le passage de l'ouragan. C'est le deuxième ouragan d'ampleur en cette saison 2017. Et les spécialistes le présentent comme l'un des plus puissants de l'histoire. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, exprime la plus forte inquiétude de son gouvernement pour ces deux îles où environ, dit-elle, 7000 personnes aurait refusé de se mettre à l'abri malgré l'ordre donné hier soir par la préfecture. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour Antoine.
Un mot d'abord, d'Irma, classée en catégorie 5, c'est la catégorie la plus élevée sur l'échelle dite de Saffir-Simpson.
Oui, un ouragan qui en taille fait les deux tiers de la France, le plus puissant, vous le disiez, jamais enregistré sur l'arc antillais, plus puissant qu'Hugo qui avait frappé la Guadeloupe en 89 et fait 15 morts, plus puissant qu'Harvey qui vient de semer la dévastation au Texas et en Louisiane. Les conséquences de l'ouragan sont à la mesure de cette démesure. On s'attend à des vagues de 10 à 12 mètres, des pluies torrentielles, une submersion des parties basses du littoral, notamment à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce matin, lorsque l'ouragan a touché Barbuda, les vents soufflaient à 295 km/h et les équipements qui enregistraient la force de ces vents ont été brisés.
Que sait-on de la situation sur place, Marie-Pierre ?
Eh bien, écoutez, Saint-Martin et Saint-Barthélemy viennent d'entrer dans l'œil du cyclone. Deux îles qui ont été placées en alerte violette, une alerte qui impose le confinement de la population. Les services de secours et d'intervention ne peuvent en effet assurer leur mission habituelle selon la préfecture. Avant de passer dans l'œil du cyclone, elles avaient déjà été frappées par des pluies diluviennes, secouées de très fortes rafales. Des arbres ont été arrachés dans les toutes premières heures de l'approche de l'ouragan. Électricité et communications téléphoniques sont coupées dans certains quartiers, l'eau également à Saint-Martin, afin d'éviter de polluer le réseau avec de l'eau salée ou boueuse. Ces dernières heures, les témoignages faisaient état de fébrilité et d'inquiétude parmi la population. Plusieurs quartiers du littoral ont été évacués, mais les autorités françaises, vous le rappeliez, regrettent que 7000 personnes aient refusé de gagner les centres d'hébergement ou les abris cycloniques. Certains, en effet, ne veulent pas abandonner leur maison ou leur bétail dans les zones qui ne sont pas directement menacées de submersion. Les habitants ont fait provision d'eau, de nourriture, de piles. Ils ont consolidé leur maison et se sont barricadés. Écoles et administrations sont bien sûr fermées. Sur l'île d'Antigua, où l'électricité a été coupée, une habitante réfugiée avec sa famille dans une école racontait à l'AFP que des gens se sont blottis dans toutes les salles de classe. Irma progresse vers l'ouest et doit ensuite toucher Porto Rico, la République dominicaine, les Bahamas qui ont déjà lancé l'opération d'évacuation la plus importante de leur histoire et peut-être Haïti et la Floride où Donald Trump a d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud. Nicolas Hulot présentait ce matin en Conseil des ministres un projet de loi qui vise à en finir avec la modeste production d'hydrocarbures en France. La loi prévoit en tout cas qu'aucun nouveau permis d'exploration d'exploration d'hydrocarbures ne sera attribué, ce qui mettra un terme en fait à la recherche de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. Les concessions d'exploitation existantes ne seront pas renouvelées donc au-delà de 2040 et la production devrait s'éteindre autour de cette date. Véronique Rebérotte, bonjour.
Bonjour.
Quel est le sens finalement d'annoncer la fin d'une production d'hydrocarbures qui pratiquement n'existe pratiquement pas en France ?
En valeur d'exemple, c'est vrai d'un pays qui, depuis l'accord de Paris, la COP21, eh bien, est en pointe, on va dire, ou se veut en tout cas en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, effectivement, ce n'est pas comme si l'Arabie Saoudite fermait ses puits de pétrole. 10 millions de barils produits par jour en Arabie Saoudite, quand la France en produit 6 millions de barils par an, principalement donc en région parisienne et en Aquitaine. 63 gisements exploités actuellement en France, amenés donc à disparaître, puisque eh bien ces concessions existantes ne pourront pas, avec la loi, être renouvelé au-delà de 2040. De nouvelles concessions ne seront pas accordées non plus. Par ailleurs, dès la publication de la loi, eh bien, aucun nouveau permis de recherche d'hydrocarbures ne sera attribué, ce qui permettrait à terme de la recherche de nouveaux gisements. Donc tout ça est terminé. La production d'hydrocarbures française, donc qui représente, vous l'avez dit, 1% de notre consommation, va donc s'éteindre progressivement d'ici 2040. Peut-être plus, s'inquiètent déjà les écologistes. En tout cas, cela converge avec d'autres objectifs de français dans la lutte contre le réchauffement climatique. 2040, ce sera de toute façon, a priori, la fin des moteurs thermiques dans les voitures. Elles ne rouleront plus au pétrole. C'est aussi cette fin de la production d'hydrocarbures françaises à l'horizon 2040, eh bien cohérent avec l'objectif bien d'une réduction de notre consommation d'énergie fossile de 30% d'ici 2030, et même d'une neutralité carbone annoncée en France en 2050. Les industriels, estiment le ministère, auront le temps de se retourner. Peut-être de se reconvertir, elle l'espère, en étant aidée d'ailleurs avec d'autres métiers comme la géothermie, les énergies renouvelables. Encore un mot, la mauvaise nouvelle quand même pour les industriels, eh bien, c'est qu'a priori, eh bien, cette loi met un terme définitif aux énergies, à l'exploitation d'exploitation en France de gaz et pétrole de schiste. Ça deviendra impossible, quelle que soit la technique d'exploitation, fracture hydraulique ou autre. La porte est définitivement, mais là aussi, les écologistes parfois en doute, ils vont nous le dire, ça ferme la porte au gaz et pétrole de schiste.
Oui, parce que vous êtes à côté de Nicolas Héringer de l'ONG 350.org. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pensez-vous que la France puisse vraiment faire école, parce que c'est ça aussi le but, comme Nicolas Hulot le disait, vu que sa production est quand même faible?
Alors, après l'adoption de l'accord de Paris, on nous a dit qu'il fallait pas se centrer sur les limites de l'accord de Paris parce qu'il allait fonctionner comme une prophétie autoréalisatrice qui allait entraîner les marchés et les gouvernements vers l'avant. Ça a volé en éclats une fois que Trump a décidé de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Et donc, on nous a dit que désormais, ce qui allait jouer, c'était une course vers l'avant, ce qu'en anglais on appelle race to the top. Et cette loi, au fond, est la première pierre de cette course vers l'avant. Le problème, c'est qu'elle est très symbolique et que le problème des symboles, c'est qu'ils ne s'accommodent pas de demi-mesures. Or là, on est dans une loi qui, malheureusement, et qu'une demi-mesure. Elle est évidemment, c'est une première.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus
état.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que alors, de dire qu'on arrête?
Alors il y a deux grosses limites. La première limite, c'est un peu technique en apparence, c'est la question des gaz de couche, qui est exclue de la définition des hydrocarbures non conventionnels par la loi Hulot. C'est la seule loi, c'est la seule occurrence dans laquelle on exclut.
C'est quoi les gaz de couche?
Les gaz de couche, c'est ce qu'on va trouver dans des couches de charbon et qui est confondu dans la loi Hulot avec le grisou, alors que c'est pas du tout la même chose. Donc évidemment, le grisou, il faut l'extraire parce que sinon il y a un risque d'explosion. Le gaz de couche, c'est quelque chose de tout à fait différent qu'on doit laisser sous terre. Et la deuxième limite, c'est que il y a actuellement une trentaine de permis d'exploration, de permis de recherche qui sont déjà attribués et que sous le régime de la loi Hulot, une fois qu'elle sera adoptée, ces permis pourront donner lieu à des concessions qui courront sur 25 ans au moins. Donc on sort de 2040 comme objectif annoncé par Nicolas Hulot, on s'approche plutôt de 2050, voire au-delà. Et surtout, au lieu de geler l'extraction des combustibles fossiles, on maintient la possibilité de l'extraire, alors que l'objectif de l'accord de Paris implique de geler totalement le développement de nouveaux projets fossiles.
Véronique Rebérotte.
Le gaz et pétrole de schiste tout de même, la fracturation hydraulique interdite, d'autres méthodes également, là ça veut dire que là c'est terminé, on n'en parle plus.
Alors la loi Hulot présente une avancée par rapport à la loi Jacob de 2011, la loi Jacob interdisait une technique, la fracturation hydraulique, la loi Hulot dit clairement que les hydrocarbures non conventionnels ne peuvent plus être extraits quelle que soit la technique. La limite c'est celle du gaz de couche qui sort de la définition des non conventionnels et il y a une interrogation, un petit doute sur le devenir de la loi Jacob. Si la loi Hulot remplace tous les articles de la loi Jacob, ça veut dire que finalement les gaz de couche, on pourra les extraire par la fracturation hydraulique.
Hier, Nicolas Hulot est à l'Elysée, Emmanuel Macron, donc le président, a reçu quelques ONG, vous n'y étiez pas. Ça veut dire que là aussi, peut-être, il y aura on va jouer une petite division entre vous, les plus radicaux, ceux qui finalement trouvent que c'est pas si mal que ça?
Je crois que c'est vraiment une... Enfin, nous, notre approche, elle est extrêmement pragmatique. Encore une fois, on a un rapport postérieur à l'adoption de l'accord de Paris, publié par un groupe de recherche qui s'appelle Oil Change International, qui nous dit que les gisements actuellement exploités, dont les 63 permis en cours, les 63 concessions en cours en France, représentent des émissions tellement importantes qu'on sort de la trajectoire des 2 degrés. Donc la seule manière de tenir l'objectif de l'accord de Paris, c'est d'organiser ce que moi j'appelle la sénescence programmée de l'industrie fossile. Donc c'est un peu le pendant de l'obsolescence. La sénescence, c'est la disparition ou le vieillissement lent et progressif d'un tissu jusqu'à sa disparition. Ce qu'il faut faire, c'est organiser la sortie de l'ère des combustibles fossiles et envoyer un message clair à l'industrie fossile comme à celles et ceux qui investissent dans l'industrie fossile que c'est une énergie qui appartient au passé et que la transition doit arriver dès à présent. Or là, en fait, on envoie un signal en demi-ton en disant oui, il va falloir en sortir, mais à l'horizon 2040. Or, c'est dès à présent que doit s'organiser cette sortie.
C'est que Chloé Loup va pas assez loin.
Dernière question.
Elle devrait aller plus loin, oui.
Ben voilà, ce sera la dernière question.
Merci beaucoup. Merci Véronique Revirotte. Merci Nicolas Ringer d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Christophe Papon pour la retransmission.
Midi 40 passé France Culture. C'est la suite de votre journal. Allez-y,
oui. On vous entend là ?
Non.
Ah bon ? Alors je reprends donc l'appel d'Emmanuel Macron aux propriétaires de logements de baisser leur loyer de 5 euros par mois pour compenser la baisse des APL. Cet appel a remis sur le devant de la scène le projet de loi du gouvernement sur le logement qui va être adopté la semaine prochaine en Conseil des ministres et sur lequel revient le ministre de la Cohésion des Territoires. Interview au Figaro ce matin de Jacques Mézard qui explique donc les enjeux de ce projet. Anne-Laure Chouin, pour le ministre, en tout cas le système des APL ne marche pas aujourd'hui et il va falloir le changer.
Oui, Jacques Mézard comme Emmanuel Macron ont lu les nombreux rapports qui se sont accumulés ces dernières années sur la politique du logement en France. En résumé, elle coûte très cher, une quarantaine de milliards d'euros par an et ne produit pas beaucoup d'effets. Il est toujours de plus en plus cher de se loger et l'offre de logement est toujours trop pauvre. Dans ce contexte, les APL auraient un effet inflationniste. Elles aideraient les ménages à s'adapter à l'augmentation des prix et de ce fait encouragerait cette même augmentation. Un effet pervers remis en cause par de récentes analyses, mais pour l'instant, cette spirale, il faut l'enrayer. C'est en tout cas la volonté affichée du gouvernement. À long terme, c'est même tout le système d'attribution des APL qu'il souhaite revoir en les calculant sur les revenus perçus dans l'année et non les années précédentes et en faisant baisser les loyers dans l'habitat social. En parallèle, le ministre annonce vouloir favoriser la construction, donc augmenter l'offre, sans vouloir la mettre sous perfusion, dit-il, via trop d'aides directes à la pierre. L'équilibre sera sans doute difficile à trouver. Pour augmenter le rythme des constructions nouvelles, Jacques Mézard propose de simplifier les normes, de sanctionner les recours abusifs contre certains permis de construire. Et puis ce serait le préfet, donc l'État, et non le maire, qui délivrerait les permis de conduire dans les zones tendues. Par ailleurs, il faut faire baisser le coût du foncier, qui freine la possibilité de construire faute de terrain disponible. Jacques Mézard souhaite là modifier la fiscalité actuelle qui veut que plus on garde longtemps un terrain, moins on est taxé sur la plus-value à sa revente. Tout cela va s'affiner dans les jours à venir. Pour l'instant, force est de le constater, rien qui n'ait été essayé durant les quinquennats précédents.
Anne-Laure Chouin, merci beaucoup. En tout cas, la baisse des loyers, ça pourrait commencer dès maintenant. C'est ce que souhaite le président de la République qui appelle à la baisse de 5 euros des loyers lancée donc par M. Macron hier. Elle est commentée ce matin. C'est une improvisation hasardeuse, affirme le secrétaire général des Républicains, Bernard Accoyer. En tout cas, Frédéric Saïs, il révèle cet appel à un état d'esprit.
Oui, il y a d'abord l'idée que l'argent investi dans la pierre est de l'argent inutile ou en tout cas moins utile à l'économie. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron, contrairement à ses prédécesseurs, n'a pas promis au cours de sa campagne de dispositif fiscal en faveur des propriétaires, comme par exemple des prêts à taux zéro. Il a même décidé de concentrer l'impôt sur la fortune sur l'immobilier en exonérant les produits financiers comme la détention d'actions. Mieux vaut donc que le capital participe à la dynamique de l'économie plutôt qu'à la rente, pour reprendre les termes volontiers employés par le locataire de l'Élysée. Il y a aussi derrière cela une marotte de Bercy. Au ministère des Finances, l'administration considère que les 40 milliards d'euros annuels consacrés au logement sont pour partie inefficaces. Selon la direction du budget, l'existence des APL s'est pour l'essentiel retrouvée dans la poche des propriétaires qui ont augmenté d'autant leur loyer. D'où cet appel à la responsabilité collective. Mais les déclarations d'hier sont à comprendre dans un cadre plus global. Il y a là une vision de la société où l'État n'est pas là pour fixer la norme, mais pour inciter à la négociation. C'est aussi la logique qui prévaut, par exemple, dans les ordonnances sur le travail, aux acteurs de négocier entre eux, au niveau de la branche ou de l'entreprise, une manière de déconcentrer le pouvoir et surtout de diluer la responsabilité politique.
Frédéric Seyss. Le Royaume-Uni envisage de reprendre le contrôle de ses frontières et ce, dès après le Brexit. Le quotidien Le Guardian publie un document de travail gouvernemental qui prévoit effectivement de supprimer la libre circulation des travailleurs dès la sortie de l'Union européenne, donc en 2019 en principe, et de mettre en place aussi des mesures qui vont réduire le nombre d'immigrants de l'Union européenne qui auraient un faible niveau d'éducation. En fait, ce nouveau système va supprimer pour la plupart des immigrés la possibilité de s'installer au Royaume-Uni et va instaurer des restrictions aussi sur le regroupement familial. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
La question du statut, alors des 3,2 millions d'Européens qui vivent outre-Manche, et du million de Britanniques d'ailleurs installés dans le reste de l'Union, est bien au cœur de ces négociations entre Londres et Bruxelles.
Et Londres affiche directement la couleur, effectivement. Nous voulons attirer dans notre pays des gens hautement qualifiés, c'est ce que dit Michael Fallon, le ministre de la Défense, des gens donc qui fournissent une contribution à la société. C'est cette idée que développe le document de travail du ministère de l'Intérieur, publié par Le Guardian, avec en tête de liste la fin de la libre circulation des travailleurs prévue dès le mois de mars 2019, juste après donc la sortie de l'Union européenne. Il y aurait ensuite l'introduction d'un permis de séjour biométrique obligatoire pour tous les ressortissants européens et des autorisations de rester sur le territoire variables en fonction des niveaux de diplôme, 2 ans maximum pour les travailleurs les moins qualifiés, 5 ans pour ceux qui exercent une profession hautement spécialisée. Le gouvernement britannique envisage aussi effectivement de limiter le regroupement familial en mettant fin à la compétence de la Cour européenne de justice, ce qui pourrait potentiellement séparer des milliers de familles. Cette fuite dans la presse intervient au moment où les chiffres de l'immigration ont été publiés. La ligne dure sur l'immigration reste la priorité de Theresa May. Il y a quelques jours, les responsables politiques se félicitaient d'une baisse record avec un solde migratoire qui est tombé à son plus bas niveau depuis 3 ans. Mais les patrons, eux, tirent la sonnette d'alarme et expliquent que le secteur de la restauration, tout comme le secteur agricole, vont bientôt manquer de main-d'œuvre.
Et Madame May va s'exprimer, Antoine, donc tout à l'heure devant le Parlement pour peut-être confirmer cette politique.
Absolument. Séance de questions d'ici un quart d'heure devant la Chambre des communes.
Antoine Gignot, merci beaucoup. En direct de Londres, la Cour de justice de l'Union européenne rejette ce matin un recours qui avait été déposé par la Hongrie et la Slovaquie, avec le soutien de la Pologne, pour ne pas appliquer le plan de répartition obligatoire des réfugiés à travers l'Union européenne. La Hongrie réagit immédiatement, fustige une décision qu'elle qualifie d'irresponsable. Critiquée à l'étranger pour son silence sur le sort de la minorité musulmane Rohingya, qui fuit et par dizaines de milliers au Bangladesh, la première ministre birmane et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi est sortie ce matin de son silence à l'occasion d'un échange téléphonique avec le président turc Erdogan. Elle affirme, elle estime que la compassion internationale à l'égard des musulmans Rohingyas est le résultat, je cite, d'un énorme iceberg de désinformation créé pour générer des problèmes entre les différentes communautés, promouvoir des intérêts des terroristes. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors ce qui est vrai dans cette crise des Rohingyas birmans, c'est qu'elle suscite une vague d'indignation grandissante, vague de soutien dans les pays musulmans, notamment les pays musulmans de la région.
Oui, ben ce mercredi par exemple, en ce moment même, se tient une manifestation devant l'ambassade de Birmanie à Jakarta, capitale indonésienne, et pays musulman le plus peuplé du monde. On a vu des manifestations de soutien analogues un peu partout dans les pays d'islam, jusqu'en Tchétchénie. Et sur les réseaux sociaux, on se déchaîne littéralement. C'est d'ailleurs ça qui a piqué au vif Aung San Suu Kyi dans son entretien avec le président turc, qui lui d'ailleurs n'hésite pas à parler de génocide à propos des Rohingyas. Dans son entretien, la conseillère spéciale de l'État birman s'est référée explicitement au tweet diffusé il y a quelques jours par le vice-premier ministre turc dénonçant le sort fait aux Rohingyas. Un tweet agrémenté de 4 photos de massacre, un tweet abondamment retweeté depuis. Le problème, c'est que ces photos sont des faux, ou plus exactement, elles décrivent bien des massacres ou d'autres exactions, mais qui se sont déroulées dans d'autres lieux, à d'autres époques. Ce genre de faux propagandiste est commun sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'en termes d'image ou même de relations de ce qui se déroule dans le nord de l'État Rakhine en Birmanie, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. La zone est complètement verrouillée. Les journalistes n'y ont pas accès. Alors d'un côté, Aung San Suu Kyi n'a pas tout à fait tort d'évoquer un certain terrorisme Rohingya. C'est bel et bien l'attaque de plus de 25 postes frontières et d'une base militaire birmane dans le nord de l'État Rakhine par des militants de l'armée du salut des Rohingyas d'Arakan le 25 août dernier qui était à l'origine des troubles. Reste que depuis, une répression, tous azimuts semble être à l'ordre du jour. En deux semaines, plus de 125 000 Rohingyas ont fui leur pays, passant au Bangladesh. Et sur les images satellites de l'État Rakhine, on distingue clairement des dizaines de villages ou de hameaux récemment brûlés, détruits, ce qui laisse augurer d'une véritable campagne, une campagne du type qui ressemble beaucoup à ce qu'en d'autres temps ou d'autres lieux on a pu qualifier de nettoyage ethnique.
Merci beaucoup Eric Biegala. Pour la première fois, la commission d'enquête des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Syrie publie ce matin un document dans lequel elle indique que le gouvernement syrien est bien responsable de cette attaque au gaz sarin sur la localité de Khan Cheikhoun, c'était le 4 avril en Syrie et qui avait fait 87 morts. Et on termine cette édition avec la décision inédite rendue publique ce matin par les géants du luxe Kering et LVMH. Nous sommes à la veille de l'ouverture des défilés new-yorkais. Une charte donc adoptée par les deux groupes, charte commune pour interdire le recours à des mannequins trop maigres et âgés de moins de 16 ans. Charte qui va au-delà donc des dispositions légales sur l'emploi des mannequins qui sont entrées en vigueur en France au mois de mai. Elle requiert la présentation d'un certificat médical qui daterait de moins de 6 mois et non plus de 2 ans, prenant en compte notamment l'indice de masse corporelle. Et elle s'engage à bannir les tailles les plus petites, inférieures à 34 pour les femmes et 44 pour les hommes. Nous voulons aller vite, frapper fort pour que les choses bougent vraiment, affirment messieurs Pinault et Arnaud, et essayer d'inciter au maximum les autres, disent-ils, les autres acteurs de la profession à nous suivre. Guillaume Erner, bonjour. Pourquoi est-ce que les patrons du luxe reculent sur ce point ?
Probablement ont-ils compris que la pression était de plus en plus forte à ce sujet, une pression qui est très largement alimentée par le débat autour de l'anorexie et donc des processus mimétiques qu'il peut y avoir entre des femmes qui voient ces mannequins et pensent que ces mannequins sont des femmes comme les autres, ce qu'elles ne sont pas. Parce que, en fait, c'est ça qui est frappant lorsqu'on voit ces photos de mode. Elles sont dopées au sens où des sportifs peuvent l'être, c'est-à-dire que ces corps sont des corps qui sont des corps travaillés, tout d'abord au travers donc d'un certain nombre d'exercices, d'assaises, de choses qui sont évidemment inavouables et inavouées par le métier, mais aussi photoshopées, ce qui rajoute en plus une autre couche de mensonges en quelque sorte. Et donc l'idée qu'on peut ressembler à un mannequin, ce serait un peu comme si vous ou moi, nous décidions par exemple de faire le Tour de France. Et donc il y a probablement eu la perception chez LVMH et Kering, comme vous le savez, ce sont les deux frères ennemis. Hein. Donc on a vraiment un Yalta de la mode, ils décident tous les deux au même moment de ne plus recourir à des femmes trop maigres et à des femmes de moins de 16 ans, ce qui est quand même heureux, puisque le fait de ne pas recourir au travail d'enfant ne peut pas être perçu comme une mauvaise chose. On se demande même pourquoi il était autorisé avant. Toutefois, il faut être vigilant, parce que ça fait très longtemps que l'on dit que désormais les mannequins ressembleraient à des femmes comme les autres. Et depuis que ce discours est émis, il est resté lettre morte. C'est-à-dire qu'évidemment, les mannequins ne sont pas, vous ouvrez n'importe quel magazine de mode, vous vous rendez bien compte qu'elles ne ressemblent pas à des femmes comme les autres.
Est-ce qu'il faut que ces mannequins, précisément, soient des gens qui ne sont pas comme tout le monde pour répondre à leur fonction, à leur métier, à leur travail, ce qu'elles représentent?
La mode, depuis son origine, est un instrument méchant. Je veux dire par là que la mode est par définition même snobante. Une mode qui serait inclusive ne serait pas une mode. Et donc l'idée selon laquelle la mode se mérite, qu'il faut souffrir pour être beau ou être belle, ce qui est dans la sagesse populaire, c'est à mon avis quelque chose qui est essentiel au mécanisme de fabrication de la mode. Et c'est pourquoi, encore une fois, je crois qu'il faut être prudent sur
ce mécanisme.
La manière
trouverait d'analyser aujourd'hui quand même une forme de limite.
Oralement. C'est-à-dire qu'il faut attendre de voir ce que l'on veut dire quand on dit qu'on ne prendra plus des mannequins filiformes. Si elles sont un tout petit peu moins filiformes, ça n'en fera pas, encore une fois, des modèles de beauté qui soient aisément accessibles.
Merci beaucoup, Guillaume Erner, sociologue spécialiste de la mode. Et on continue de suivre la mode Erner tous les matins sur France Culture. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer aussi à ce journal. La météo maintenant pour terminer en métropole. Les régions méditerranéennes vont conserver un temps ensoleillé. ensoleillé mais venté. Ailleurs, les nuages se morcellent, laissant progressivement percer de belles éclaircies, des températures de 18 à 25 degrés sur la plupart des régions, du nord au sud jusqu'à 25 à 30 degrés dans le sud-est et en Corse. C'est une édition qui a été réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal sur France Culture, c'est 18h avec Aurélie Kiffer. Et dans un instant, Olivia Gesbert.